4. À côté de la route du Kansas, la vieille Ford de 12 ans de John Cullum, 155 000 au compteur, mais démarrant au quart de tour, comme aimait à le répéter le bonhomme, jouait paresseusement à la bascule au-dessus du bas-côté, les pneus avant effleurant le tapis herbeux, puis se soulevant doucement, de sorte que les roues arrière puissent embrasser furtivement la terre tendre. À l'intérieur, deux hommes, qui n'avaient pas seulement l'air inconscient, mais transparent, se balançaient mollement au diapason du véhicule, comme des cadavres dans une épave engloutie. Et autour d'eux flottaient les débris qui s'amoncellent dans ces vieilles voitures qui ont vu du pays. Cendres, stylos et bloc-notes, quelques cacahuètes centenaires et une pièce d'un penny sortie de sous la banquette arrière, et des aiguilles de pin sur les tapis de sol, et même un tapis en suspension. Dans l'obscurité de la boîte à gants, des objets percutaient timidement les parois. Un passant serait sans doute resté pétrifié devant le spectacle inouï de ces objets et de ces gens. Des gens qui avaient l'air morts, en train de flotter dans la voiture comme des débris en apesanteur dans une capsule. Mais personne ne passa aux alentours. Les habitants de cette rive de Long Lake regardaient pour la plupart vers l'autre rive, en direction d'East Stoneham, bien qu'il n'y eût plus vraiment grand-chose à contempler. Même la fumée avait presque disparu. La voiture flottait paresseusement, et à l'intérieur, Roland de Gilead s'éleva lentement vers le toit. Sa nuque vint s'appuyer contre le tissu sale et ses jambes se dégagèrent du siège passager pour suivre le reste de son corps dans son ascension. Eddie fut d'abord maintenu en place par le volant, puis un mouvement latéral aléatoire le fit glisser sur le côté et il s'éleva lui aussi, le visage détendu, comme en plein rêve. Un filet de bave argentée s'échappait des commissures de ses lèvres et flottait, brillant et constellé de bulles minuscules, à côté de sa joue durcie de sang séché. 5. Roland savait que Susanna l'avait vu, et qu'elle avait probablement vu Eddie aussi. C'est pourquoi elle s'était donné tant de peine pour parler, pour prononcer ce mot unique. Jake et Callahan, cependant, ne les virent ni l'un ni l'autre. Le garçon et le père avaient pénétré dans le cochon du Sud, ce qui était ou très courageux, ou très stupide. Et à présent, toute leur concentration était nécessairement mobilisée par ce qu'il y avait trouvé. Téméraire ou pas, Roland éprouvait une fierté farouche à l'égard de Jake. Il vit que le garçon avait mis en place la Kanda entre lui et Callahan. Cette distance, variable en fonction des situations, qui permettait à deux pistoleros surpassés en nombre par leurs ennemis de ne pas se faire tuer simultanément d'une même balle. Ils étaient venus tous deux dans l'intention de combattre. Callahan portait le pistolet de Jake, et autre chose également. Une sorte de figurine sculptée. Roland était presque certain qu'il s'agissait d'un Kanta, un des petits dieux. Le garçon avait aussi les Ritza de Susanna, ainsi que leur fourre-tout qu'il avait récupéré seul les dieux savaient où. Du coin de l'œil, le pistolero aperçut une grosse femme dont l'apparence humaine s'interrompait au niveau du cou. Au-dessus de son triple menton flasque, le masque qu'elle portait pendait en lambeaux. En apercevant la tête de rat qui pointait dessous, Roland comprit subitement beaucoup de choses. Certaines auraient pu lui apparaître clairement plus tôt si seulement son attention, tout comme celle du garçon et du prêtre en cet instant précis, ne s'était pas concentrée sur d'autres priorités. Sur les ignobles de Callahan, par exemple. Il s'agissait sans doute de Taïn, des êtres issus ni du prime, ni du royaume de la nature, des créatures abâtardies surgies d'un entre-deux innommable. Ces ignobles n'avaient rien en commun avec ceux que Roland appelait les lents mutants, car ces derniers étaient le triste résultat des guerres insensées des grands anciens et de leurs expériences désastreuses. Non, il s'agissait certes de véritables Taïnes, connus aussi sous le nom de Troisième Peuple, ou de Cantois. Et oui, Roland aurait dû s'en douter. Combien des Taïnes servaient aujourd'hui l'être qu'on désignait sous le nom de roi cramoisi? Quelques-uns? Une majorité? Tous? Si la troisième hypothèse était la bonne, Roland se dit que la route vers la tour serait en effet difficile. Mais porter le regard au-delà de l'horizon n'était pas vraiment dans la nature du pistolero, et dans ce registre, son manque d'imagination était probablement une bénédiction. 6. Il vit ce qu'il lui fallait voir. Bien que les Cantois, les ignobles de Callahan, aient encerclé Jack et Callahan de toutes parts, eux-mêmes n'avaient pas encore aperçu le duo derrière eux qui montait la garde près de la porte d'entrée donnant sur la 61e rue. Le père les avait paralysés avec sa figurine sculptée, tout comme Jack avait pu envoûter les gens avec la clé qu'il avait découverte dans le terrain vague. Un Taïn jaune, avec un corps d'homme et une tête de vaseau, avait une sorte de pistolet à portée de main, mais ne faisait pas mine de vouloir s'en emparer. Il y avait pourtant un autre problème. Un problème que l'œil de Roland, entraîné à saisir instantanément toutes les embûches et tous les pièges, n'avait manqué de remarquer dès la première seconde. Il vit la parodie blasphématoire du banquet de la dernière confrérie d'Eld, accrochée au mur, et en saisit la pleine signification juste avant qu'elle se déchire. Et cette odeur, pas seulement de la chair, mais de la chair humaine. Encore un détail qu'il aurait pu anticiper s'il avait eu le temps d'y réfléchir. Mais la vie à Calabrine Sturgis lui avait laissé peu de temps pour la réflexion. À la Cala, comme dans un livre de contes bien ficelé, les choses s'étaient enchaînées à un rythme effréné. Pourtant, tout était plutôt clair à présent, pas vrai? Ces ignobles n'étaient peut-être que des Taïnes, des ogres mangeurs d'enfants, si cela vous sied. Ceux derrière la tapisserie étaient ce que le père Callahan appelait des types 1, des vampires que Roland lui-même connaissait sous le nom d'aïeux. Sans doute les survivants les plus épouvantables et les plus puissants de la récession du prime. Il y avait bien, bien long. Et si de simples Taïnes se contentaient de se tenir là, bouche bée devant le sigleux que brandissait le père Callahan, les aïeux en revanche ne s'y reprendraient pas deux fois. Et soudain, des insectes se déversèrent dessous la table, dans un brouhaha de cliquetis infernaux. Roland en avait déjà vu, et s'il entretenait encore des doutes quant à ce qui se cachait derrière cette tenture, l'apparition des insectes les fit immédiatement voler en éclats. C'étaient des parasites, des buveurs de sang, des prostituées, des antiques. Pas vraiment dangereux tant qu'on avait un bafouilleux dans la pièce, mais quand on apercevait autant de petits docteurs dans les parages, les aïeux n'étaient souvent pas bien loin. Et tandis qu'Otay se jetait à l'assaut des insectes, Roland de Gilead fit la seule chose qui lui vint à l'esprit. Il descendit vers Callahan. Dans Callahan. 7. Père, je suis là.
Si fait, Roland, qu'est-ce que...
Pas le temps. Sortez-le d'ici, vous le devez. Sortez-le d'ici tant qu'il est encore temps. 8. Et c'est ce que Callahan essaya de faire. Le garçon, bien entendu, ne voulut pas partir. En le regardant à travers les yeux du père, Roland se dit avec une certaine amertume « J'aurais dû mieux lui enseigner la trahison. Pourtant, les dieux savent que j'ai fait de mon mieux. Partant que tu le peux encore, dit Callahan à Jake, luttant pour garder son calme. Rattrape-la si tu le peux. C'est ton Dean qui te l'ordonne. C'est aussi la volonté du blanc. Ces mots auraient dû le décider, mais tel ne fut pas le cas. Il continua d'argumenter. Bon Dieu, il était presque aussi teigneux qu'Eddie. Et Roland prit les choses à bras-le-corps.
Père, laissez-moi faire.
Roland prit le contrôle sans attendre de réponse. Il sentait déjà la vague, la veine cale, qui commençait à se retirer. Et les aïeux apparaîtraient d'une seconde à l'autre.
« Vas-y, Jake !»
s'écria-t-il en utilisant la bouche et les cordes vocales du père comme haut-parleur. S'il avait dû réfléchir à la marche à suivre dans une situation de ce genre, il aurait été bien en mal de trancher, mais il faut dire qu'il n'avait jamais eu tendance à préméditer les choses. Et il ressentit un élan de gratitude en voyant le garçon écarquiller subitement les yeux en reconnaissant sa voix.
« C'est une chance unique, et tu dois la saisir. Retrouve-la, en tant que Dean, je te l'ordonne. »
Puis, comme dans le bloc opératoire avec Susanna, il se sentit une nouvelle fois soulevé comme une plume en apesanteur, arraché au corps et à l'esprit de Callahan, comme une toile d'araignée ou des duvets de pissenlit. L'espace d'une seconde, il essaya de redescendre en battant l'air des bras, tel un nageur luttant contre un courant violent, juste le temps d'atteindre la côte, mais c'était impossible.
« Roland !»
c'était la voix d'Eddie, complètement désemparé.
« D'où Jésus, Roland ? Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Au nom du ciel !»
La tapisserie s'était déchirée. Les créatures qui se précipitèrent avaient un air antique et anormal. Leurs visages de sorciers pullulaient de dents poussant dans tous les sens. Leurs babines se retroussaient sur des crocs aussi épais que les poignets du pistolero. Et dans la barbe de plusieurs jours qui maculait leur menton ridé, luisaient du sang et des lambeaux de viande. Et pourtant, Dieu, ô Dieu, le garçon ne bougeait toujours pas.
« Ils vont commencer par tuer Othé !»
hurla Callahan. Sauf que Roland n'eut pas l'impression que c'était bien Callahan. Pour lui, c'était la voix d'Eddie, usant du même procédé que Roland. Le jeune homme avait dû trouver des courants plus cléments, ou bien il avait plus de force. Assez en tout cas pour rentrer après que Roland s'était fait expulser.
« Ils vont le tuer sous tes yeux et te faire boire son sang !»
Et cet argument l'emporta. Le garçon se retourna et s'enfuit, Othé galopant à ses pieds. Il coupa sous le nez du Taïn oiseau entre deux folkens ignobles, mais aucun ne fit mine d'essayer de l'attraper au passage. Médusé, il fixait toujours la tortue posée sur la paume de Callahan. Les aïeux ne prêtèrent aucune attention au garçon qui s'enfuyait, comme Roland l'avait prévu. Il avait appris à travers l'histoire du père que l'un des aïeux était venu dans la petite ville de Salem Slot, où le prêtre prêchait à l'époque. Le père avait survécu à cette expérience, chose peu commune pour ceux qui se retrouvaient nez à nez avec de tels monstres, après avoir perdu leurs armes et leurs sigleux de pouvoir. Mais cette créature avait forcé Callahan à boire de son sang souillé avant de le laisser repartir. Il l'avait marqué pour que les siens puissent le reconnaître. Cela même. Callahan brandissait sa croix sigleux dans leur direction, mais avant que Roland pût en voir plus, il fut de nouveau aspiré par les ténèbres. Le carillon se remit à tinter, le rendant fou de son tintinnabulement entêtant. Faiblement, quelque part, il entendit Eddie crier. Roland tendit la main vers lui dans le noir, effleura le bras du jeune homme, puis le perdit. Trouva sa main et s'y cramponna. Ils roulèrent et roulèrent encore, s'accrochant l'un à l'autre, luttant pour ne pas être séparés et pour ne pas se perdre dans ces ténèbres sans porte. Entre les mondes.